France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et l'invité du grand entretien du 7-9 est ce matin un ancien homme politique. Il fut ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique pendant la présidence de François Hollande. Depuis qu'il a quitté la politique, il est devenu entrepreneur. Aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui s'appelle Bleu Blanc Ruche et qui produit du miel. Vous pourrez dialoguer avec lui dans quelques instants au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour. Bonjour Nicolas Demorand.
Et merci d'être à notre micro ce matin. Vous prenez désormais rarement la parole. Alors quelques mots tout de même pour commencer. Pour ceux qui auraient raté des épisodes ou des étapes, dites-nous ce qui vous a conduit à créer votre propre entreprise dans ce secteur-là tout particulièrement. Pour nous remettre les choses en perspective, quelle continuité y a-t-il entre l'homme politique que vous fûtes et l'entrepreneur que vous de 20 après avoir quitté la vie publique.
Ben, on est un et indivisible, on n'a qu'une seule ligne de vie finalement. Donc j'étais un militant du Made in France lorsque j'étais à Bercy et j'ai décidé de monter des entreprises qui défendent les producteurs français, particulièrement dans le secteur agricole qui est un secteur aussi sinistré que l'industrie. Et c'est l'apiculture qui m'a conduit à agir parce que je me souviens qu'il y a 10 ans, dans une de mes campagnes électorales, je suis tombé chez un apiculteur dans le village à côté de l'endroit où j'habite en Saône-et-Loire. Et il avait perdu toutes ses ruches. Il avait perdu son outil de travail. C'est un homme qui était blessé. Et l'émotion qu'il avait su me transmettre m'a conduit à m'intéresser à cette question il y a 10 ans. Et lorsque j'ai quitté la vie publique active, je me suis dit qu'une entreprise était autant capable que l'action politique et publique de résoudre des problèmes. Donc qu'est-ce que nous avons monté avec Bleu Blanc Ruche ? Une société d'entraide économique entre des consommateurs et des apiculteurs pour que le consommateur prennent en charge les problèmes de l'apiculture, c'est-à-dire l'effondrement économique, les difficultés liées à la montée des toxiques, des problèmes de nourrissement des animaux. L'abeille est essentielle à la nourriture humaine. Vous savez que sur elle et elle seule repose 35% de l'alimentation humaine. Imaginez qu'on perde l'abeille, c'est 35% de la nourriture en moins. Il nous resterait en gros le blé, quelques céréales et les pommes de terre. Et tout le reste ne pourrait plus être les plantes ne pourraient plus se reproduire. Donc c'est un choix
singulier tout de même. Quand on regarde les choses comme ça à plat, on se dit que qu'est-il allé faire dans la ruche, dans les abeilles?
C'est une entreprise qui porte une cause et une mission dans laquelle nous sommes tous concernés. Et pour moi, l'entreprise, même si elle est modeste et petite, c'est une start-up qui réalise depuis 8 mois 250 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est bien, mais c'est petit, très petit. C'est une entreprise qui peut résoudre des problèmes. Donc nous, notre vision, c'est de dire, le citoyen va acheter du miel Bleu Blanc Ruche, il va mettre peut-être quelques dizaines de centimes de plus, il aura des miels tracés avec le nom de l'apiculteur sur le pot, et en contrepartie, parce que l'apiculteur va mieux vivre grâce à cet effort du consommateur, il va repeupler la France en abeilles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons acheté 94 tonnes de miel auprès de 45 apiculteurs dans toute la France qui eux-mêmes ont reçu des prix supérieurs entre 5 et 18% des prix de marché et ont implanté et créé 2730 ruches. Voilà, c'est ça notre premier bilan de la première année.
Vos étiquettes sont très claires. On entendait dans le journal de 7h tout à l'heure un certain nombre d'apiculteurs demander à ce que la vérité soit écrite sur les étiquettes de miel parce que beaucoup de contrefaçons circulent. C'est le faux miel se porte bien.
Ce qui a ruiné l'apiculture européenne, et il manque 13 millions de ruches en Europe occidentale, il ne reste plus que 50 apiculteurs en France de plus de 1000 ruches, ce qui a ruiné l'apiculture, et pas seulement européenne, y compris d'autres grands pays mellifères d'Amérique latine par exemple, c'est le fait que les grandes usines chimiques à miel artificiel chinoises mélangent du sucre indétectable avec du miel, et en vérité ont cassé les prix. Donc vous avez du miel qui arrive à 2 euros à la consommation. Ce n'est pas du miel. On vous vend souvent du sucre au prix du miel. Et la Commission européenne, comme UFC Que Choisir, a détecté que 30% des miels en grande distribution mélangent sur les pots. Attention, je le dis aux consommateurs qui nous écoutent, quand vous voyez sur le pot mélange Union européenne et hors Union européenne, c'est un miel planétaire. Donc vous avez de grandes chances, une chance sur trois, que ce soit un miel oblitéré, en fait c'est du sirop de sucre.
Vous croyez...
Voilà pourquoi nous avons décidé chez Bleu Blanc Ruche, avec Bleu Blanc Ruche et mon équipe, et nos apiculteurs, de réhabiliter le miel des terroirs. Ce sont les plantes qui parlent à travers le travail des abeilles. Et évidemment, nous avons des grands miels de cru qui sont accessibles quand on paye correctement l'apiculteur, qu'on évite que le distributeur ne gagne trop d'argent. Et ben finalement, on peut réaccéder et donner finalement le moyen pour l'apiculteur de vivre correctement, d'investir, de faire croître son cheptel et donc de retrouver une croissance des colonies en France.
Votre démarche est dans l'air du temps, Arnaud Montebourg, pour mille raisons que vous venez de décrire. Produire localement, en circuit court, de bons produits, permettre à tout un secteur économique...
Garantir l'origine France.
L'origine, et à travers ça, un secteur économique de revivre... Vous n'êtes pas le seul aujourd'hui à dire que l'économie et l'écologie peuvent avancer et donc avoir une relation féconde et vertueuse. Le Premier ministre a affirmé mercredi que l'ambition écologique de l'exécutif serait au cœur de l'acte 2 du quinquennat. Il faut accélérer. C'était toute la première partie du discours de politique générale. Dites-nous ce que vous pensez là du double point de vue qui est le vôtre aujourd'hui, de l'entrepreneur et de l'ancien homme politique. Ce que vous pensez du verdissement de l'action de l'exécutif qui est annoncé, répété, est-ce qu'il y a une véritable prise de conscience? Est-ce que vous attendez pour voir? Dites-nous ce que vous en pensez.
Ben, dans la société bouge. Quand on voit la façon dont les consommateurs exercent une pression maintenant énorme pour manger mieux, faire attention à leur santé, regardent les étiquettes, il y a une sorte de prise de pouvoir du consommateur qui finalement a fait changer tout, est en train de transformer en profondeur la grande distribution et la production. C'est pour ça que naissent des marques équitables partout. Donc la politique est en retard. Donc vous avez d'ailleurs l'impossibilité de mener des politiques aujourd'hui écologiques très ambitieuses parce que nous sommes dans un monde mondialisé. Si vous prenez des positions, par exemple, consistant à interdire tel ou tel produit, vous avez des problèmes de compétitivité et vous allez vous retrouver à affaiblir votre système économique alors que l'Europe n'est encore pas sortie de la crise de 2008, c'était il y a 10 ans, qu'on a des niveaux de croissance qui ne sont pas reconstitués. Comment voulez-vous qu'un gouvernement aujourd'hui se retrouve à prendre des mesures écologique sérieuse et sévère, alors qu'il risque d'affaiblir sa propre économie. Donc ils ne prennent pas. D'ailleurs, l'instabilité ministérielle, depuis, j'ai assisté à ça, il y a eu 4 ministres d'environnement et de l'écologie sous François Hollande, il y a déjà eu 2 sous Emmanuel Macron. C'est l'impossibilité d'agir. Et le syndrome Nicolas Hulot, qui est le symbole de ça, l'impossibilité d'agir, eh bien, dans une économie ouverte, et pour moi, l'écologie n'est pas incompatible avec le capitalisme, elle est incompatible avec la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture absolue.
Mais donc vous attendez de voir, vous voyez une bonne volonté, mais un système mondial qui est compliqué pour mener de vraies politiques écologiques extrêmement ambitieuses. Vous attendez de voir, vous dites quoi?
Par exemple sur l'agriculture, qui a un rapport avec la biodiversité qui s'effondre. On a quand même perdu 80% des insectes en France en 20 ans. On voit bien qu'il y a une épidémie chez les agriculteurs, de conversion au bio. Ça veut dire que les agriculteurs eux-mêmes prennent conscience qu'il faut changer leurs pratiques agronomiques et culturales et leur modèle économique qui est mort. Et donc, mais sur le plan politique, c'est une catastrophe. Les aides au bio ont été supprimées. Quand elles sont annoncées, elles sont pas versées. Le terrain, c'est un désespoir. Et donc, vous avez bien là un problème politique. Par exemple, imaginons qu'on décide en France de revenir à un bio généralisé. Ça pourrait être une politique très intéressante. Ça veut dire qu'on abandonnerait un certain nombre de pratiques qui aujourd'hui sont encore majoritaires. On imagine ce que cela voudrait dire. Ça veut dire qu'il faudrait réorienter la PAC, utiliser les subventions complètement autrement, la renationaliser, ce qui n'est pas impossible, puisque finalement, de fait, elle l'est à peu près. Et on se retrouverait en situation d'avoir remplacé 50% des agriculteurs qui partent à la retraite sur des nouvelles pratiques. Vous imaginez ce que ça changerait? Ça changerait énormément de choses. Il n'y a pas de gouvernement qui propose ça aujourd'hui. On peut le discuter, d'ailleurs, les organisations syndicales agricoles sont pas forcément favorables, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a un débat à ouvrir, ce débat n'existe pas.
Mais vous croyez à la sincérité de la conversion verte, du verdissement de l'action de l'exécutif?
Écoutez, je ne sais pas comment porter un jugement sur tout ça, parce que j'ai pris un peu, comment dire, de distance par rapport à ça. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ambition. Par exemple, la question de la rénovation thermique des bâtiments. Mmh. C'est la première source d'émissions de CO2 en France. Il y a eu, dès le Grenelle de l'environnement, c'était en 2007, une feuille de route, c'était 500 000 logements rénovés et isolés par an, ce qu'on appelle les épaves thermiques, etc. Il y a eu je ne sais combien de plans qui n'ont jamais été mis en œuvre. Il y a eu des annonces à peu près tous les ans, ou tous les deux ans, tous les trois ans, admettons. Bon, Monsieur Hulot a lui-même fait un plan, il n'a jamais été mis en œuvre. Donc on nous explique qu'on va le faire. Mmh. Mais pourtant, on a de l'argent qui est disponible, la Caisse des dépôts et consignations à 2000 milliards qui peuvent servir à ça. Nous avons, semble-t-il, des dispositifs qui se sont multipliés sur ces années, et il n'y a aucun résultat. C'est donc bien qu'il y a un problème avec cette question-là. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui de mutation du système politique qui nous permette d'imaginer que nous sommes en train de nous adapter aux exigences du dérèglement climatique.
Une question au carrefour de l'écologie et de la politique encore, Arnaud Montebourg. Les écologistes emmenés par Yannick Jadot ont fait un gros score aux élections européennes, plus de 13% avec une importante fraction du vote des jeunes. Yannick Jadot dit aujourd'hui que l'écologie n'est ni de gauche ni de droite et qu'il faut savoir s'affranchir de ce clivage-là. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'elle est aujourd'hui une idéologie assez puissante pour être parfaitement autonome et mettre derrière elle présente comme un vieux clivage ?
L'écologie doit être mariée avec toutes les autres problématiques de la société. Elle ne peut pas résumer la société. Donc ça ne peut pas être un projet en soi, même si c'est un objectif qui doit devenir primordial. Donc pour moi, il doit y avoir une analyse, par exemple, de l'alliance de l'écologie avec l'économie. Est-ce que finalement, on peut continuer à avoir le libre-échange, l'importation de produits chinois, alors qu'on sait que la Chine, finalement, ne respecte pas les conventions internationales sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Même chose s'agissant des États-Unis d'Amérique. Continuer à signer au nom de l'Europe des accords de libre-échange. Donc on voit bien qu'il y a des contradictions et des conflits qui doivent amener finalement ceux qui sont les porteurs d'un projet écologique extrêmement ambitieux à devoir faire des sacrifices sur d'autres terrains. Donc on ne peut pas, alors gauche, droite, est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui quand on a vu que la gauche et la droite finalement menaient les mêmes politiques, excusez-moi de le dire, les mêmes politiques. Donc en fait, il faut qu'ils se prononcent, je crois, c'est un peu le conseil que je donnerais à monsieur Yannick Jadot, qu'ils se prononcent sur la question de l'économie ouverte. La taxe carbone, on ne pourra pas le faire avec l'Union européenne actuelle, donc il va falloir le faire avec la France. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Par exemple, est-ce qu'on accepte des rapports avec l'Allemagne pacifique sur plan économique, alors qu'on sait que c'est le premier émetteur avec la Pologne de CO2 ? Quand finalement, chez nous, on est en train de se poser la question du nucléaire qui a fait que la France est un des pays les plus propres au monde dans sa facture, dans sa fabrication d'électricité. Donc finalement, cette question de savoir si on peut continuer à avoir des rapports d'ouverture, j'allais dire très tranquilles, avec des partenaires économiques qui ne respectent pas ce que nous faisons, est posé. Donc on ne peut pas aujourd'hui avoir une vision de l'Europe ou du monde qui soit la même et celle du statu quo que défendent aujourd'hui les responsables publics depuis
des années. Deux questions avant de donner la parole aux auditeurs qui sont extraordinairement nombreux ce matin à vouloir dialoguer avec vous. En deux ans de recul par rapport à la vie politique active, celle de tous les jours, Arnaud Montebourg, que diriez-vous du macronisme aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez en formuler une définition ?
Pour moi, c'est le nouveau parti conservateur qui a remplacé l'UMP LR et qui l'a fait avec les habits de la nouveauté et qui finalement mène la même politique que toujours. Le drame dans notre pays, c'est qu'on vote depuis des années. Ça a commencé avec Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Et à chaque fois, on revient toujours à la même politique. Donc, en vérité, il est là le problème. C'est qu'il n'y a pas d'alternative. Et le sentiment des Français est extrêmement sérieux et sévère, doit être très, très écouté. Pour moi, le macronisme, qu'est-ce que c'est, si j'avais à le résumer ? C'est l'adaptation de la France aux normes de la mondialisation, telle qu'elle est. Et donc, on dit aux Français, vous êtes des fainéants, vous êtes des idiots, vous ne comprenez rien, moi je sais, donc je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc on taille des normes pour adapter les Français. Mais la France, c'est pas ça. La France, c'est Napoléon Bonaparte, c'est le général de Gaulle, et c'est la France qui a fait le reste du monde. C'est pas la France qui s'est adaptée au reste du monde. En clair, c'est un peu ce qu'un jour avait dit ce penseur que je juge ridicule, qui s'appelle Alain Main, qui avait dit « La France, c'est pas plus grand qu'un canton suisse ». Ben si, la France a une grandeur historique. Et les Français ne sont pas, et c'est ça le sens du mouvement des Gilets jaunes, décidés à laisser leur destin entre les mains des autres. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la réplique, la riposte aux macronistes, c'est le retour de la nation. Donc vous avez aujourd'hui le risque que nous entrions dans une sorte de décennie noire politique où nous allons nous retrouver avec des nationalistes extrémistes au pouvoir parce que les Français ne sont pas d'accord avec cette politique qui est menée, j'allais dire, par une minorité, pour une minorité. Mmh. Voilà ce que je peux dire en toute sincérité.
Il y a un certain nombre de questions sur ces thèmes-là politiques au sens large. Donnons tout de suite la parole à Vincent sur France Inter qui nous attend depuis une dizaine de minutes au standard. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Je vous écoute.
Oui, j'avais une question à Monsieur Montebourg.
Oui.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
J'aimerais avoir son avis sur le dossier Alstom de Belfort, cette catastrophe. Alstom a été racheté par le géant américain General Electric. Au lieu de créer 1000 emplois, il va en supprimer 1000. Et en plus de ce scandale, maintenant, les pièces des centrales nucléaires françaises ainsi que les pièces des sous-marins nucléaires sont fabriquées par un Américain, ce qui pose problème en cas d'embargo américain, hein, parce que ça peut arriver, on l'a vu par le passé. J'aimerais avoir l'avis de M. Montebourg concernant un document qui circule sur Internet qui s'appelle « La guerre fantôme ». Comment M. Macron a trahi les intérêts de la France ? Est-ce qu'il juge ce document objectif, sincère ? Ça circule sur Facebook, tout le monde peut le trouver.
Je ne l'ai pas lu, Vincent. Je vais donc passer la parole à Arnaud Montebourg sur l'ensemble de votre question et du dossier Alstom. Merci d'être intervenu, Vincent.
Écoutez, je vais vous parler très franchement. Je me suis battu quand j'étais au gouvernement, quand cette affaire a été décidée, contre la vente d'Alstom. La décision a été prise, j'ai donc perdu l'arbitrage, j'étais favorable au blocage de cette vente. Pourquoi ? Parce que la question énergétique, les outils stratégiques, industriels, énergétiques doivent rester entre les mains de notre pays, ils ne doivent pas passer entre les mains de mains étrangères. Mmh. Bon, et fut-elle prétendument alliée, qui s'appelle les Américains. Très bien. Cette décision a été prise par le président Hollande, c'est sa responsabilité. Le Premier ministre, d'ailleurs à l'époque, qui s'est rallié à ce choix-là, qui était Monsieur Valls, ont pris cette décision. Je le regrette. J'ai dû négocier un peu le dos au mur pour essayer d'obtenir des compensations. Il y avait dans cette affaire plusieurs compensations. La première, c'est qu'on nationalisait le reste d'Alstom et qu'on mettait dans trois co-entreprises dans lesquelles se trouvait le nucléaire l'État, devenu finalement Alstom, hein, et face à General Electric pour récupérer ça. Bon, mon successeur qui est Emmanuel Macron, qui a mis en œuvre tout ça, ne l'a pas mis en œuvre. C'est-à-dire que la nationalisation n'a pas eu lieu, les co-entreprises ont été dissoutes, dévitalisées, et donc la France ne s'est pas fait respecter. Donc pour moi, c'est un désastre en termes de stratégie industrielle, parce que nous avons perdu une branche fondamentale. Alors s'il y a une trahison, la première, c'est celle de M. Cron, qui était le président de cette entreprise, qui pour de l'argent et pour des intérêts personnels, qui sont parfaitement décrits par Frédéric Pierucci, dans son récit personnel, qui est un ancien cadre de très haut niveau d'Alstom, qui a été pris en quelque sorte comme otage du système judiciaire américain pour qu'il dénonce.
Léa Salamé l'a reçu
pour qu'il dénonce les opérations contestables qui avaient lieu chez
Alstom. Et le rôle d'Emmanuel Macron, selon vous ?
Ben, je viens de dire, c'est-à-dire que on pouvait encore se battre pour récupérer un certain nombre d'éléments, mais pour ça, il fallait nationaliser Alstom, ce que j'avais obtenu et arraché de François Hollande, et il fallait travailler avec les co-entreprises. D'ailleurs, comme General Electric est en déconfiture, aujourd'hui, encore, le gouvernement peut racheter des morceaux d'Alstom, et on peut racheter le nucléaire. Donc qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est ça qu'il faut faire.
Il faut racheter.
Ben bien sûr, il faut reprendre, il faut récupérer ça, dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire. Là où, évidemment, il y a des éléments stratégiques, mais aussi des marchés. J'appelle le nucléaire, c'est-à-dire toutes les turbines à vapeur qui convertissent en électricité la vapeur d'origine nucléaire fabriquée par les réacteurs. Et y compris sur nos sous-marins, et nos bâtiments militaires, évidemment.
On va repartir au standard, il nous reste déjà très peu de temps. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
On vous écoute.
Ce qui est bien quand t'es ministre, c'est que tu peux faire de la retape pour ta boutique pendant 5 minutes sur le service public, c'est génial. Une petite question, maintenant que vous avez les mains dans le cambouis, que vous êtes redescendu des hautes sphères du ministère, qu'est-ce que vous en retenez de votre expérience de chef d'entreprise au quotidien et de start-upper? Et est-ce que vous avez des liens encore avec vos anciens collègues pour pouvoir faire remonter ça? Et qu'est-ce que vous arrivez à en faire ressortir?
Merci Baptiste pour cette question que je livre à Arnaud Montebourg.
Chef d'entreprise, d'abord c'est la liberté. Le problème dans la politique, c'est que tout est conflictuel. C'est extrêmement difficile de faire aboutir un projet. Dans l'entreprise, l'entreprise est unificatrice. Donc on unit des gens et on arrive à faire aboutir des projets. Alors évidemment, ils n'en ont pas la même taille, ils n'en ont pas la même envergure. Moi, je suis très fier d'avoir fait ce que je fais. Je suis en train de créer d'autres marques équitables de cette nature. Mais il n'empêche que notre engagement, pour moi, est un peu le même. Ça revient au même. Il n'a pas la même taille, il n'a pas le même goût. Il est tout aussi difficile. Être entrepreneur, c'est accepter les risques, c'est parfois encaisser des déceptions, mais en même temps, on peut toujours remonter sur son cheval.
Quand vous voyez le résultat des gauches françaises aux européennes, Arnaud Montebourg, vous vous dites quoi? Elles sont à terre, elles sont fracassées, ou alors vous prenez une petite calculette, vous faites une addition et vous vous dites que toutes réunies, si elles le souhaitaient, elles pourraient être à 20% ou au-delà, et qu'il y a peut-être au fond un espace qui est encore en attente, au moins chez les électeurs. Comment vous voyez les choses?
Si vous voulez, la gauche est extrêmement divisée. Pourquoi? Parce que la branche social-démocrate a abandonné dans la crise les classes populaires. C'est d'abord ça l'histoire. C'est l'histoire finalement de je devais faire payer la crise à d'autres que les classes moyennes et classes populaires, et j'ai fait payer la crise aux classes moyennes et aux classes populaires. Donc c'est cet abandon-là d'abord qui fait qu'il n'y a plus d'accord sur le projet. Donc le projet, il faut le construire, et c'est un projet qui doit être vaste, qui replace la question de l'écologie au sommet, qui replace la question de la nation dans et de la souveraineté, c'est-à-dire de la maîtrise de notre destin collectif dans ce projet, et qui est capable d'offrir aux Français des perspectives de reconquête de ce qu'ils ont perdu.
Donc elle n'est pas morte?
Je considère qu'il y a des ressources, mais elles sont éparpillées et désunis. Donc ce projet-là, je ne sais pas qui est capable de le faire naître, mais en tout cas, je ne vois pas dans les acteurs l'un plus fort que d'autres qui pourrait soit essayer de le dicter, car on ne dicte pas un projet, il faut le construire avec la société. Et je ne vois pas, pour l'instant, le chemin.
Vous reviendrez en politique?
Écoutez, je n'en ai pas l'intention. Pour une raison simple, c'est que je considère avoir donné 18 ans de ma vie à la France. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai défendu des convictions, je ne les ai pas quittées. Je reste un citoyen, comme vous l'observez, engagé. Je n'ai plus de parti politique, car je fais partie de ces Français qui ne sont plus d'accord avec...
Mais j'entends pas un nom définitif.
Mais je n'ai pas aujourd'hui de projet en ce sens, ça c'est sûr. Et j'ai bien l'intention de poursuivre mon chemin entrepreneurial avec bleublancruche.fr et bien d'autres. Merci pour la publicité.
Oui, c'est pas de la retape, comme le disait notre auditeur Baptiste, avec le ton vinaigré qu'on adore chez les auditeurs de France Inter. Merci en tout cas Arnaud Montebourg d'avoir été au micro de France Inter ce matin. On est déjà très en retard, 8h46.